des changements des modèles d'éducation. Le deuxième élément, c'est la construction des politiques scolaires en Italie, que j'essaie de tracer au moins brièvement pour faire comprendre un peu comment ces modèles éducatifs sont traduits dans les politiques éducatives en Italie. Et donc, cette dialectique entre dirigisme centraliste et volontarisme, c'est-à-dire renvoyer à la base la réalisation concrète des réformes, et finalement, la dernière étape, qui est quand même l'étape principale de mon discours aujourd'hui, c'est la micropolitique de l'école, ça veut dire la façon dans laquelle, justement, sur le terrain, les politiques sont traduites et les gens sont attrapés par les politiques et par la politique. Et donc, je vais analyser cette dimension micropolitique dans l'institut scolaire et aussi dans la classe. Alors, voilà les concepts de mise en ordre cognitive et organisationnelle. Un peu, ça renvoie aussi à la littérature française, qui est bien connue, bien évidemment. Et tout le monde a compris que les politiques européennes sont devenues un instrument très puissant des transformations du panorama social, et aussi la façon dans laquelle même les chercheurs travaillent et pensent leur travail. Et aussi, c'est-à-dire, par exemple, les données produites par l'Europe ou par d'autres institutions internationales sont les données sur lesquelles souvent nous confrontons ou aussi nous utilisons pour notre recherche, notamment par exemple les données et OX et PISA. Les organismes européens produisent ces références conceptuelles qui définissent les cadres des objectifs et des concepts à lesquels tout le monde se réfère. Et en fait, il n'y a pas cet élément-là, mais il y a aussi un dispositif économique qui est fondé et bureaucratique, qui est fondé par les démarches par lesquelles les ressources sont distribuées en Europe, surtout dans certaines régions de l'Europe qui, en fait, à travers les fonds, par exemple pour l'inclusion sociale ou pour l'éducation, doivent construire les projets en se référant à des modèles conceptuel, bien évidemment. Donc il faut toujours une référence très forte à ces modèles conceptuels, il faut toujours faire référence à Horizon 2020, et il faut toujours être très clair dans les objectifs qui tu es dans ces cadres conceptuels, et en même temps il y a un format, un modèle bureaucratique et aussi des comptes rendus des projets qui fait que quand on réalise un projet, il faut avoir un bilan économique qui doit être fait dans les règles de l'Union européenne. Et pour ça, ça veut dire qu'à tous les niveaux, au niveau de l'administration régionale, ou de l'État, ou des écoles, tout le monde doit être formaté dans les mêmes cadres qui est technique et conceptuel. Donc je pense que ce niveau d'encadrement technique et financier, c'est aussi fort que les cadres conceptuels et idéologiques. Donc, pour moi, c'est important de souligner que c'est un programme de transformation sociétale. Parce que des concepts comme les concepts d'économie de la connaissance ou d'apprentissage tout au long de la vie ne sont pas des concepts anodins, mais ce sont des concepts qui vont transformer la façon dans laquelle nous pensons le futur, l'avenir. Notre futur est celui des jeunes, et donc nous imaginons que la nouvelle société, c'est une société dans laquelle la connaissance est l'élément principal qui va fonder l'économie. Mais qu'est-ce que c'est cette connaissance, et qui va rentrer dans cette connaissance, et comment on produit cette connaissance? Et en fait, cette connaissance est produite à travers un apprentissage tout au long de la vie. Ça veut dire que nous sommes rattrapés. En fait, les paradoxes de la crise de l'école, aujourd'hui en France on discute d'une nouvelle réforme, les paradoxes de la crise de l'école, c'est que l'école en fait n'est pas en crise. C'est-à-dire c'est une école qui c'est une métastase. Et c'est un cancer qui n'arrive pas à arrêter son développement parce qu'en fait tout le monde est rattrapé continuellement dans des institutions éducatives. Même les enseignants et même les professeurs de l'université doivent passer des cours pour réapprendre à enseigner. Et donc, tout le monde doit entrer dans les cadres conceptuels que personne ne peut plus échapper à l'idée que chacun de nous doit continuellement être réformaté dans l'idée que notre compétences sont des compétences qui ont une durée très limitée. Donc, cet élément, c'est un élément idéologique très fort et qui a une dimension qui est celle de la création d'un consensus cognitif, c'est-à-dire que tout le monde utilise ces genres de concepts, des notions, même les gens qui sont critiques par rapport à cette approche. Donc finalement, la puissance de ces discours est telle que personne ne peut s'échapper au fait, même si tu te poses en opposition à ça, tu le fais en utilisant ces mots et même ces données, et donc tu es rattrapé dans la logique du discours et tu finis pour les renforcer. L'autre aspect qui me paraît très important de souligner, c'est l'individualisation de la responsabilité. En fait, dans ces procès qui investissent la société, et l'élément qui me paraît central, c'est le fait que chacun de nous est évaluable à tout moment. Et la faute n'est plus une faute qui dépend des conditions sociales. Ce n'est plus un problème des luttes de classe ou des positions de classe. C'est un problème de responsabilité individuelle. Et en fait, la réponse des institutions, c'est l'inclusion sociale. L'inclusion, c'est quelque chose d'individuel par laquelle tu te laisses attraper par les institutions et guider dans des parcours de formation ou des parcours psychologiques par lesquels tes problèmes peuvent être résolus si tu es disponible à te faire soigner par l'école, par la formation ou par les psychologues, des fois par les sociologues aussi. Donc, la notion des compétences, c'est un mot magique. Qui personne n'a encore compris ce que ça veut dire. En fait, il y a une littérature immense avec de l'économie, de la pédagogie, de la sociologie, de la psychologie. Et les compétences sont des choses qui personne vraiment arrive à dire qu'est-ce que c'est. Mais quand même, on a décidé qu'on peut mesurer et on peut certifier. Et là, cette certification de la compétence, ça crée quelque chose qui va institutionnaliser en fait et constituer de façon définitive l'individu dans un processus total et continuel de jugement par des institutions. Et donc, finalement, la compétence est aussi la façon dans laquelle on essaie de relier le monde de l'école qui, jusqu'à il y a quelques années, essayer de s'échapper, l'université, de s'échapper à la relation avec l'entreprise en disant que les savoirs étaient quelque chose qui pouvait être conçu au-delà du rapport à la production, au marché du travail. Et en fait, la notion des compétences, même si elle est critiquée aujourd'hui dans l'entreprise, est assumée par les institutions nationales, européennes, éducatives en général, comme les mots magiques qui va essayer de passer ces ponts entre l'école et l'entreprise et qui fait que justement chacun de nous peut être mesuré par rapport à son attitude à travailler et à pouvoir être inséré dans le monde du travail. Après, certains sociologues comme Bernstein ou Thompson ont parlé des sociétés totalement pédagogisées et des pédagogisations de la vie quotidienne. Donc, c'est ça que je veux dire. Et j'ai l'impression que la crise de l'école est une crise qui n'existe pas, mais c'est une crise de croissance et qui la porte toujours à justifier sa propre croissance et à vouloir occuper totalement la vie de chacun des citoyens. Donc, on peut parler d'un nouveau ordre, un nouvel ordre pédagogique, qui est né aussi par une exigence qui est au cœur des stratégies européennes et aussi des différents États, c'est-à-dire celle de faire de façon que l'école soit au pas du changement technologique. Donc en fait, le problème de faire entrer la technologie dans l'école était lié aussi à l'idée que la société devait se moderniser et donc se devait moderniser à travers l'école. Donc avoir en fait les tableaux blancs interactifs ou les tablettes dans la classe signifiait avoir, d'une façon, ça signifiait aussi faire développer les marchés, les dispositifs électroniques. Donc, ça, c'était une autre chose très importante. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que l'Union européenne a financé avec les fonds sociaux européens ça pour financer la croissance de l'industrie électronique. De l'autre côté, c'était l'idée qu'il fallait être compétitif avec les États-Unis et donc il fallait de toute façon que la population soit alphabétisée au niveau de des technologies. Il y a des philosophes comme Edgar Morin, qui sont très connus en Europe, qui sont les philosophes qui sont les porteurs de ces nouveaux ordres pédagogiques, avec l'idée justement de changer l'école, une école qui n'est plus l'école de la tête bien pleine, mais la tête bien faite. Non, c'est une idée rhétorique très charmante, et tout le monde est d'accord avec ça, moi aussi, parce que tout le monde préfère avoir une tête bien faite plutôt que bien pleine. Mais quand même, comme on verra, il y a quelques problèmes. Donc, cet ordre pédagogique, le nouvel ordre pédagogique, est centré sur l'apprentissage et non plus sur l'enseignement. Tout à l'heure, les collègues nous ont parlé de la classe inversée, mais quand même, il faut dire que son expérience, il me semble comprendre, était dans une classe de Sciences Po. Donc, il vient de dire que la moitié des étudiants n'arrivaient pas à suivre le travail. Imaginez d'envoyer un professeur à faire la classe inversée dans un quartier de Marseille. Non, quel est l'effet que peut faire tout ça dans un cadre moins facile? En fait, il me semble que le problème n'est pas, à part la rhétorique de la construction du savoir, une construction apparemment démocratique du savoir entre les enseignants et les élèves, il y a un changement des modèles de socialisation qui est très clair, et l'idée qu'on passe de la société du fordisme au post-fordisme, et donc finalement qu'on n'a plus besoin d'étudiants qui sont élevés dans un cadre, les cadres militaires de l'école traditionnelle, qui était construit sous le modèle de l'armée, de l'administration, de l'usine, mais un nouveau cadre, c'est un cadre dans lequel on doit être créatif. On doit être aussi précaire, créatif et précaire. Et on doit avoir des dispositions nouvelles, qui sont par exemple des dispositions insaisissables, comme des dispositions du caractère. Et en fait, quand on parle des compétences, ce n'est pas seulement des compétences en savoir-faire qui est concerné, mais un savoir-faire technique, des skills, mais aussi un savoir-faire social. Par exemple, savoir se proposer, communiquer, proposer à l'entreprise et avoir une disposition à changer tout au long de la vie. Donc, en fait, c'est une disposition mentale, psychologique, par laquelle chacun. C'est pour ça que je parle d'individualisation de la responsabilité, parce que ça doit être incorporé par l'individu, la capacité d'être à tout moment à disposition du marché, et donc changer de ville, changer de travail, changer de vie, etc. Et donc, tout ça. Ça passe à travers un tentatif d'échanger des modèles de socialisation. Je ne pense pas que, en fait, ils ont réussi à changer vraiment ce modèle de socialisation. Mais ça, c'est la direction que veut prendre la politique. Après, l'école reproduit ses propres modèles. Et donc, les choses sont beaucoup plus compliquées dans la pratique. En fait, tout à l'heure, on va observer ça sur le terrain. Donc, les passages, c'est de la verticalité à l'horizontalité. Les élèves sont censés construire les connaissances avec les enseignants. Ça aussi, c'est clairement un problème théorique, mais aussi idéologique. Il faut dire que tout ça rentre aussi dans des pédagogies qui ont été discutées au cours du XXe siècle, et au moins du début du siècle. L'idée d'une éducation démocratique Dewey, par exemple, au Montessori, etc. Nous avons plein de pédagogues, philosophes de l'éducation, qui ont parlé des problem solving. Dans les années 60, c'était la période du problem solving. Donc, mais l'idée qui passe aujourd'hui, c'est que la technologie arrive à faire ce que la réalité n'a pas fait. C'est-à-dire, la réalité virtuelle, un mot qui est en fait absurde, mais c'est. Et la réalité virtuelle serait la réalité électronique dans laquelle on peut construire l'environnement d'apprentissage idéal, par lequel les gens sont privés du corps et des caractéristiques sociales, et par lequel ils peuvent être en interaction en se passant de tout ça. En réalité, donc l'idéal qui passe, c'est que la technologie peut être l'instrument magique qui produit cette révolution pédagogique. C'est ça, justement, les liens entre l'innovation technologique et l'innovation pédagogique dans l'école. Justement, le collègue a dit tout à l'heure, les tableaux blancs interactifs, sans une pédagogie interactive, ça ne marche pas, c'est bien évident. Et il dit que, pourtant, pour ça, ça ne sert à rien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, mon discours, c'est qu'en fait, et la force du tableau interactif, même quand ça ne marche pas, c'est d'être là. Et donc, en fait, de construire immédiatement, face aux élèves, aux parents, aux collègues, au directeur de l'école, l'image d'un professeur ou d'un instituteur qui n'est pas en mesure d'être à la page, d'être à la mesure des temps. Et donc, finalement, la pression sociale sur les enseignants qui ne s'adaptent pas à des modalités d'usage de la technologie, ou à l'usage tout court de la technologie, ça peut mener à des conditions professionnelles par lesquelles on est objet d'une stigmatisation professionnelle. Et surtout, même les élèves de l'école élémentaire, par exemple mes enfants, quand les tableaux blancs sont arrivés dans la classe, les enseignants étaient effrayés par les tableaux. Et les enfants, après un mois, disaient, tous les jours, on disait, mais l'enseignant, elle est nulle, elle n'arrive même pas. Donc, ce qui crée, en fait, chez les enseignants, une forme de délégitimation culturelle plus générale. Donc, les tableaux blancs ont une puissance, même quand ça ne marche pas. Il ne marche pas parce qu'il y a un dispositif qui objective la nouvelle hégémonie pédagogique basée sur le cadre des références communes européennes. Donc, quand il est là, et quand il est là avec les téléphones, avec les BIOD, Bring Your Own Device, et toutes les modalités pédagogiques par lesquelles aujourd'hui on pense de pouvoir, on essaie de faire une pédagogie interactive, en fait, ces dispositifs. Et sont là et ils parlent aux enseignants, ils parlent à la classe, et donc créent une condition par laquelle l'hégémonie culturelle de ces cadres s'impose aussi dans les pratiques quotidiennes de la vie scolaire. Or, justement ici, on parle des pédagogies de la classe inversée, une pédagogie inversée par rapport à la pédagogie traditionnelle. Aujourd'hui, quand même, il y a des psychologues qui sont en train de mettre en discussion, par exemple, la pédagogie constructiviste, parce que, par exemple, à certains niveaux de l'apprentissage, surtout quand les enfants sont petits, et on comprend qu'en fait, ils ne sont pas en mesure de mener tout seuls leurs recherches et construire les savoirs sans avoir des bases. Donc, en fait, il y a aussi des problèmes d'overload cognitif par lesquels, en fait, essayer de mettre les enfants à construire certains procès pédagogiques et avec l'enseignant porte à ne pas en fait, faire avancer réellement les enfants dans l'apprentissage. Donc finalement, aujourd'hui, cette vision commence quand même à être critiquée, mais pourtant, ces critiques ne sont pas arrivées au niveau encore de l'Union européenne et des cadres conceptuels qui sont proposés. Mais, par exemple, OxePISA, avec ses données et la comparaison européenne, c'est un instrument très puissant de cette mise en ordre cognitive, parce que après l'invention des compétences, ils ont construit l'instrument pour réfier les compétences, c'est-à-dire l'instrument qui a créé les compétences dans la réalité. Comme on peut les mesurer, elles existent. Elles existent, sont objectivées, et même on peut les comparer entre les pays, entre les régions, etc. Et tout ça, même si les sociologues ou les économistes qui utilisent ces données ont montré que en fait, il y a des différences qui dépendent d'autres variables, comme par exemple des variables régionales ou sociales. Bon, alors, le projet que j'ai étudié s'appelait Scuola Digitale, était fait en Sardaigne il y a 6-7 ans. Et l'idée, c'était d'équiper chaque salle de classe d'un tableau Black interactif, ce qu'ils ont fait, de former tous les enseignants avec un modèle de formation des enseignants sur les compétences numériques et sur les croyances pédagogiques. Et équiper chaque étudiant d'une tablette. Et le quatrième élément, c'était d'assister les enseignants dans la production des contenus numériques qui auraient dû être mis dans un nuage et partagés entre les enseignants. Alors, pas toutes les choses qui ont été prévues ont marché parce que plein de conflits politiques se sont créés à plusieurs niveaux et c'est ça, en fait, la part centrale de ma discussion. Alors, j'ai parlé des consensus politiques et la nécessité d'avoir un consensus politique est centrale pour la création d'une idée de réforme, par exemple, au niveau national ou régional. Et évidemment, ce n'est pas si clair comment les régions, les différents États vont traduire les références européennes dans des politiques nationales ou régionales. Mais de toute façon, il y a des experts qui ont cette fonction de faire cette traduction. Alors, en Sardaigne, c'était un épistémologue qui a une position centrale en Italie dans toutes les réformes italiennes dans les derniers 20 ans, qui est un professeur de mon université et qui a normalement un rapport très étroit aussi avec les maisons d'édition, des logiciels, etc. Et donc, avec une position centrale entre les champs économiques, les champs de la production, des contenus, les champs politiques, et pouvait jouer ce rôle de traducteur entre les différents terrains des politiques européennes. En fait, le cœur de mon discours, c'est que la réforme et l'innovation à l'école n'a pas, c'est un peu une provocation, mais je commence à y croire. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif n'est pas de réformer l'école, n'est pas de la faire marcher, mais c'est de mobiliser les gens. Donc, c'est pas important d'avoir même pas un consensus politique sur la réforme, c'est en fait de créer une mobilisation sociétale. C'est le fait que tout le monde soit pris dans des processus qui en fait sont politiques et par lesquels justement la politique peut donner des objectifs à la société, à l'école, aux enseignants, aux parents, aux élèves. Et à travers ça, en fait, c'est créer une mobilisation générale dans la société. C'est pas les seules mobilisations qu'on a. On a plusieurs types de mobilisations autour des droits de l'homme, autour des droits civils, etc. Mais ça, c'est un des mobilisations dans lesquelles la politique s'exerce pour avoir une tension continuelle dans l'école des mobilisations des acteurs. Donc, cela ne signifie pas que la mobilisation va avoir un consensus politique de la part des anciens. Très souvent, ça va créer aussi des oppositions. On l'a vu plein de fois pendant les réformes de l'école ou de l'université. Pourtant, chaque ministre, les premiers jours qu'il arrive à son poste, propose une réforme de l'éducation. Donc, il sait qu'il est dangereux. Mais c'est comme les personnes âgées à la retraite dans ma ville, hein, on les appelle en Sarre, oreris, ça veut dire les gens qui font l'heure, qui font passer leurs heures, hein, qui regardent le travail des autres. Voilà, oreris. Et donc, en fait, les réformes, c'est un chantier toujours. Il faut un chantier toujours ouvert dans l'éducation. Toujours un chantier toujours ouvert pour pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, à tous les niveaux, les projets deviennent l'objet des conflits d'intérêts opposés, dont le contrôle des ressources matérielles et symboliques est l'enjeu principal. Les premiers niveaux sont les niveaux régionaux. Les premiers niveaux sont les niveaux politiques régionaux et l'administration qui a ses intérêts et a essayé de contrôler les processus qui peuvent permettre, par exemple, d'enrôler dans les processus, par exemple, des grosses entreprises. Et par exemple, l'achat d'un tableau blanc interactif pour chaque classe de l'école, ça signifie des milliers de tableaux. Ça signifie donc des millions d'euros. Donc, ce projet, c'était un projet à 120 millions d'euros. Donc, 120 millions d'euros, il y avait des sous pour tout le monde, aussi pour l'université, pour les enseignants. Il y avait des dizaines de millions pour les enseignants aussi, pour la formation des enseignants, etc. Donc, tout le monde est mobilisé autour des intérêts qui sont aussi des intérêts économiques. Mais c'est aussi des intérêts et des pouvoirs, des symboliques, des prestiges, et où se jouent des carrières. L'autre niveau, c'est le niveau de l'administration de l'école. En Italie, on a les ministères, une administration centrale, comme en France. Et puis, on a l'administration de l'école a des bureaux régionaux. Un bureau régional qui gère toutes les écoles, les autonomies scolaires dans la région. Donc, normalement, la relation est vraiment hiérarchique à ce niveau. Donc, quand tu construis une politique éducative régionale, tu as une relation des négociations continuelles entre les pouvoirs politiques, l'administration régionale et l'administration de l'école, qui en fait ne dépend pas de l'administration régionale, mais de l'administration nationale du ministère. Donc, il y a très souvent des conflits sur la définition des projets et aussi sur la gestion des projets. Alors, au niveau le plus bas, il y a les directeurs des écoles et les conseillers des professeurs des écoles. Et donc, c'est ces gens-là, les directeurs des écoles, qui doivent faire la traduction des politiques sur le terrain. En fait, les trois mots que j'aime bien utiliser, c'est convertir, enrôler et mobiliser. Parce qu'en fait, il y a un travail de conversion. Il faut recruter les gens dans la politique et dans les activités. Donc, il faut les convaincre et il faut les mobiliser. Stephen Ball affirme qu'il parle des subjectifs qui sont foucauldiens. Et donc, il parle des subjectivations de l'enseignant. Et la politique fait de l'enseignant un producteur et un consommateur des politiques. Et donc, si tu considères les différentes positions des enseignants par rapport à l'activation d'une politique, tu peux voir des stratégies qui peuvent être d'adhésion, dites bol, aux évitations. Mais quand même, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce que je pense que, en fait, même les gens qui essaient d'éviter une politique sont rattrapés même dans les jeux d'évitation de la politique. Donc, tu ne veux pas être engagé, mais tu es engagé par ton absence d'engagement. Et donc, en fait, moi, je pousse un peu plus loin les discours, c'est pour ça que je dis que la mobilisation est générale, est totale. Même les gens qui n'adhèrent pas au processus de réforme, par exemple, nous, on peut critiquer l'évaluation des universités, des chercheurs, même des fois, on s'est mobilisé. Mais même à travers, je ne parle pas de cette mobilisation, parce que même cette mobilisation fait partie de la mobilisation politique plus générale dans les projets. J'ai dit, il n'y a pas de résistance possible. Donc, je ne suis pas d'accord avec Desserteaux, avec James Scott. Je ne pense pas qu'il existe une résistance possible, parce que la résistance s'est créée à l'intérieur d'un discours dominant, par laquelle même les résistants utilisent les langages des dominants, et donc obligés à incorporer ces langages. Alors, les trois niveaux que, en fait, j'ai déjà expliqué tout à l'heure de l'exécution d'un projet sont mis en relation avec les marchés. Parce que, en fait, les marchés de la production des contenus et des logiciels ou des dispositifs électroniques, un marché qui a intérêt à avoir une relation constante avec l'école ou l'administration régionale, etc. Et en fait, le déroulement de ces projets en Sardaigne, mais aussi en Italie, est lié au conflit entre les producteurs des contenus, les grandes maisons d'édition, par exemple, ou les grands producteurs, Samsung, par exemple, des logiciels ou des dispositifs électroniques, avec l'État ou avec les régions. Parce que ce qui se passe, c'est que normalement, la logique aurait voulu qu'on fasse un appel d'offres européen et régional pour tous les dispositifs, comme ça, avoir un modèle et un prix pour tout le monde. Mais finalement, dès que la région produit un guide technique pour choisir les dispositifs, et les producteurs portent plainte contre la région parce qu'ils considèrent que c'est une turbative des marchés et qui va adresser vers un produit plutôt qu'un autre. C'est vrai qu'aussi il y avait des soupçons que certains acteurs politiques étaient liés, par exemple, à Télécom. Et Télécom avait un produit qu'il voulait faire passer à travers les administrations, et donc vendre ses produits aux écoles. Donc en fait, cette politique peut être analysée, on l'a analysée à travers trois aspects, les processus qui conduisent à l'achat des TBI, la formation des enseignants, et la question de l'élaboration des contenus. Moi, je vais parler surtout du premier niveau, même si les autres sont très intéressants aussi, parce que bon, les conflits sur la formation des enseignants ont été vraiment très importants. Aussi, le problème de l'élaboration des contenus. Qui est qui doit produire les contenus? Il y avait deux idées opposées. Une démocratique, qui plaisait aux enseignants, c'est-à-dire les enseignants reçoivent de l'argent de l'État pour travailler dans des expérimentations, des productions guidées des contenus qui sont formatés par des experts et qui sont mis dans des nuages et partagés par tout le monde. L'autre était poussé par les maisons d'édition nationales qui voulaient au contraire que les financements arrivent aux maisons d'édition pour pouvoir booster les marchés et donc faire avancer les marchés et aussi créer les nouveaux marchés des produits électroniques pour passer du livre en papier au nouveau produit. Donc, ce conflit, c'est un conflit qui a porté, en fait, à ne pas décider. Parce que c'est arrivé dans les tribunaux, et parce qu'il y avait des conflits très, très forts d'intérêts, cette politique a été bloquée. Et donc, en tout cas, on voit une dialectique entre centralisation et décentralisation qui produit des négociations, des projets, et un changement du projet par lequel, en fait, la politique n'est pas dessinée une fois pour toutes, mais est négociée à chaque pas de sa réalisation. Et donc, c'est négocié non seulement à l'intérieur des bureaux de l'administration de la politique, mais négocié aussi au moment dans lequel elle est traduite par les acteurs sur le terrain. Notre problème, c'est que les tentatives de mobilisation, de centralisation se cognent dans l'école contre les résistances des acteurs qui en fait, les enseignants ont la tendance, en Italie, mais je crois en France aussi, à ne pas accepter des directives trop fortes. Et donc, finalement, moi, le travail que l'on a fait a été fait à tous les niveaux du processus. C'est-à-dire qu'on a pu suivre l'implémentation de cette politique dans les bureaux de la région, dans les négociations avec les acteurs, dans les instituts scolaires et dans les classes. Donc, en fait, on a eu la chance. Pour différentes raisons, aussi parce qu'à un certain moment, moi j'étais consultant à la région, donc j'ai pu faire une ethnographie directe de certains passages, et donc j'ai pu vivre en direct les négociations, les conflits qui portaient justement à certains moments, quand c'était plus possible de proposer une politique par les hauts. De proposer une politique par les bas, par laquelle, en fait, finalement, on a 10 millions d'euros, il faut les dépenser entre la fin, dans la fin de l'année, parce que sinon, ils vont rentrer à Bruxelles. Et donc, finalement, on s'arrange à changer totalement la politique et dire aux enseignants, on vous fait un projet dans lequel vous faites c'est de vous à construire les projets. Donc, à ce moment-là, c'est l'école qui doit construire leurs projets. Et participer à l'appel d'offres de la région. Donc, en fait, on passe, par exemple, par dans ces conflits des logiciels, dans ces conflits des hardware, pas des logiciels, on passe de la centralisation totale à une décentralisation de l'achat, par laquelle on crée des réseaux d'écoles et on dit, vous ne pas passer par la modèle d'appel d'offres européen. Qui est trop contraignant, on va couper les appels d'offres, on fait des petits appels d'offres, comme ça on n'est pas obligé à rentrer dans les grosses commandes européennes et on peut les gérer de façon plus flexible, mais on va essayer encore à la région d'avoir des lignes directrices. Mais ça aussi va se cogner contre l'opposition de certains producteurs des dispositifs. Et donc, on arrive à la décentralisation totale. Et on dit aux écoles, bon, vous allez décider quel type de hardware à acheter. Alors, ça, c'est en fait le niveau de la politique, de la micro-politique de l'école, parce que là, on va créer des 100 réseaux d'écoles, qu'on appelle points d'achat, et qui doivent gérer les appels d'offres. Ils sont pas. Ils sont pas le faire, ils n'ont pas des gestionnaires qui sont habitués à faire des appels d'offres aussi importants. Normalement, ils achètent des papiers toilettes, pas plus. Et donc là, ils avaient acheté ils avaient beaucoup d'argent et donc ils avaient peur. Et en plus, parce ils avaient les grandes maisons de production qui regardaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc ils avaient vraiment peur. Et choisir le dispositif. Alors là, c'est un moment pour l'observation sociologique qui était très intéressant parce qu'on pouvait observer la façon dans laquelle, dans l'école, on faisait une improvisation pour essayer de mobiliser les compétences construites par l'apprentissage organisationnel ou technique fait dans des expériences antérieures, elle est mobilisée, et mobilisée aussi des réseaux d'acteurs qui s'étaient créés dans d'autres expériences de formation d'enseignants, d'achat des logiciels, des projets d'innovation. Donc, tous les projets d'innovation ou des formations des enseignants qu'on avait fait dans les 20 ans précédents avaient créé quand même des réseaux, des compétences qui pouvaient être mobilisées dans cet espace d'incertitude dans lequel les écoles fallait qu'elles décident et prendre un risque. En fait, un aspect intéressant, c'est que ça crée beaucoup de stress et montrer qu'en fait, le capital social qui a été mobilisé et qui avait été justement créé dans les expériences précédentes, pas expérience pas de toutes les enseignants, mais de certains enseignants, des enseignants qui normalement sont mobilisés dans ces projets. Et donc, c'est les enseignants qui forment normalement la base de management de l'école, la base sur laquelle l'école construit normalement son action, donc les animateurs de l'école normalement. Non? Ces animateurs de l'école sont aussi les gens qui ont une trajectoire dans la vie scolaire qui n'est pas seulement dans la classe, mais c'est de construire aussi une professionnalité par laquelle il devient formateur d'enseignants, etc., etc. Et qui peuvent mobiliser des réseaux d'enseignants qui s'échangent des informations, par exemple, sur les logiciels. Alors, et là, il y a deux éléments, c'est les dilemmes techniques et les dilemmes pédagogiques, parce que chaque option technique est en fait un dilemme qui interroge les pratiques pédagogiques. Les conditions d'utilisation de la technologie. Par exemple, avoir ou pas l'option de l'écran tactile. Dans les différents réseaux d'école, ils ont choisi des fois des options techniques très différentes, sur la base des fois des raisonnements qui n'étaient pas vraiment fondés, mais sur l'impression qu'ils pouvaient avoir, sur l'expérience aussi technique des gens. Par exemple, des fois, les plus jeunes enseignants aimaient plus l'écran tactile, tandis que les enseignants plus anciens préféraient l'écran qui à commande. Et donc ça, c'est intéressant parce que aussi les tableaux blancs interactifs, qui est une technologie déjà vieille, était déjà vieille il y a 10 ans. Donc, mais quand même était contraignante, parce que c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, cette technologie n'est pas anodine dans la classe, parce qu'elle est en présence qui donne une forme à l'espace, au temps, à l'organisation du travail, et à une force symbolique, et aussi à travers des choix comme ça, à une force dans les pratiques pédagogiques qui peuvent être réalisées. Qui ne sont pas toujours des pratiques pédagogiques avancées, avec la classe inversée, mais la plupart des fois, c'est des classes. Au contraire, ça renforce la pédagogie très traditionnelle. Et même la non-pédagogie. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableau blanc interactif? C'est regarder la télé. Donc, en fait, il y a toute une part des stratégies pour ne pas travailler ou pour garder les enfants tranquilles. Il n'est pas vraiment du travail pédagogique, mais c'est du contrôle social, qui est renforcé par rapport au tableau noir, qui en fait avait un usage limité. Et ici, en fait, l'usage peut permettre en fait, un aspect ludique qui peut être utilisé de façon beaucoup plus flexible et attractive pour les étudiants. Et en fait, comme on verra, les tableaux, ça peut devenir un terrain d'échange et de négociation avec les étudiants, justement, à ce niveau-là. Et non pas parce que, comme disaient les collègues tout à l'heure, il est utilisé dans une pédagogie avancée, mais justement parce qu'il est utilisé dans une non-pédagogie. Mais là, quand même, un effet. Et un effet qui peut changer selon le public. Donc là, je rejoins les collègues, on le dit, en fait, c'est l'usage. Et c'est le public qui fait la différence de l'usage. Alors, dans les, dans les meilleurs lycées, comme on verra, on avait des classes qui faisaient réellement un travail collectif de construction, de recherche. Et par laquelle les gens pouvaient faire une recherche à travers Internet et construire et ensemble un travail collectif. Mais dans les classes des professionnels, les tableaux étaient utilisés simplement pour faire participer les gens à quelque chose. Pas vraiment pour faire de l'apprentissage, mais pour avoir quelqu'un qui au moins change la couleur des caractères. Et donc, pour un moment, gagner la participation des gens qui, en fait, voudraient être ailleurs, ils sont déjà ailleurs avec la tête, mais quand même, ça devient, en fait, une substitution du travail pédagogique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un effet. En effet, c'est le mot qui renforce les différences. Ça renforce la différence parce que, justement, la capacité d'usage dans les écoles, dans les lycées littéraires, par exemple, du tableau blanc et des tablettes, des téléphones pour construire des échanges, de la construction du savoir, etc. Et c'est aussi des endroits où les statuts institutionnels de l'enseignant n'est pas mis en discussion, normalement. Donc, comme en fait les problèmes du savoir, hein, c'est au niveau démocratique de l'Internet. Hein, c'est que chacun de nous peut avoir l'information sur la vie d'Aristote. Donc, à ce moment-là, l'élève peut contrôler à tout moment si le professeur connaît les dates de la naissance d'Aristote. Donc, ça peut construire un renversement symbolique du pouvoir par rapport à la connaissance. Et donc, les enseignants peuvent avoir peur de ça. Mais quand même, si l'enseignant peut sait utiliser ça dans une relation horizontale des constructions, on ne pose pas les problèmes. Parce qu'en fait, l'enseignant peut guider dans cette construction. Mais dans des endroits où n'est pas question de construire en fait quelque chose ensemble, mais les problèmes, c'est le contrôle social des étudiants qui ne mettent pas du porno dans les tableaux blancs, qui ne font pas des rigolades, etc. C'est ça les problèmes principaux. Et finalement, les contrôles allaient dessus sur la pédagogie. Et donc, dans ces cas-là, on ne voit pas un usage des technologies qui aident en fait une pédagogie horizontale et même pas verticale, mais finalement utilisée dans les arrangements de la survie des enseignants dans ces conditions de travail. De quelle manière donc les tableaux blancs interactifs affectent la vie de la classe, de l'école? Apparemment, il est intégré dans la classe. Il prend position à côté du vieux tableau. Très souvent, on a trouvé des stratifications des tableaux de plusieurs époques dans les classes qui étaient laissées. Mais quand même, il est positionné à l'endroit du tableau. Donc, en fait, les tableaux blancs n'échangent pas la structure de l'espace de la classe. N'échangent pas la structure conversationnelle de la classe. Parce que la structure conversationnelle de la classe est toujours construite sur les pouvoirs de l'enseignant et sur les jeux conversationnels qui sont menés par l'enseignant. Donc, les tableaux n'ont pas ces pouvoirs magiques qui étaient, en fait, qui était tout dans l'imaginaire des réformateurs et des pédagogues qui imaginaient en fait les pouvoirs révolutionnaires des technologies. Et en fait, je suis d'accord avec les collègues qui a parlé tout à l'heure, qu'en fait, les tableaux blancs, n'importe quelle technologie peut avoir ce pouvoir de révolutionner les pratiques pédagogiques. Au contraire, très souvent à renforcer les vieilles habitudes pédagogiques parce que ça permet par exemple de faire un usage massif de l'écrit. Tu peux continuer à enregistrer et envoyer un écrit. Donc, et c'est beaucoup plus facile par rapport au vieux tableau qui demandait à chaque fois un effort et aussi d'effacer ce qu'on avait fait. Ici, tout est enregistré. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, S'il ne change pas les rapports à l'espace, ça change beaucoup plus les rapports au temps. Et ça change les rapports au temps dans deux dimensions. D'abord, parce que les activités avec les tableaux sont chronophages. Parce que quand on passe d'une technologie à l'autre, les enseignants doivent réinvestir leurs matériaux dans une nouvelle technologie. Ça crée beaucoup de travail en plus. En plus, il y a des bugs. Il y a des incidents. Ça peut même pas marcher. Et donc, ça crée en fait, au niveau du temps, beaucoup de problèmes. Et donc, ça, là, aussi, les temps par rapport à la mémoire. Parce qu'avant, les professeurs pouvaient effacer les choses, et aujourd'hui, en fait, les choses peuvent être enregistrées, aussi la voix de l'enseignant. Et donc, ça reste une mémoire, en fait, une mémoire de l'histoire de la classe et de l'enseignant. Ce qui change quand même la relation, un peu la relation pédagogique, au moins par rapport au temps. C'est vrai aussi que la charge par rapport à l'espace, c'est-à-dire que l'école devient une porosité de l'école. Parce que, par exemple, à travers les tableaux, on peut envoyer un email à tous les étudiants avec la registration, mais aussi les parents peuvent savoir ce qui se passe, par exemple, si les élèves sont présents ou pas dans la classe. C'est fini pour les élèves. C'est les contrôles. C'est en fait la société. C'est vraiment. Heureusement, je suis vieux et c'est fini pour moi, tout ça, parce que je pense que je n'aurais pas pu survivre, supporter tout ça, parce que j'étais très mauvais élève. Alors, l'idée de ne pas pouvoir échapper à la regard croisé de l'école et des parents, c'est selon moi terrible. Donc, en fait, on peut parler des performativités du TBI. Donc, parce qu'il incarne des dimensions performatives et évaluatives. Donc, la présence du tableau est dramatique. Parce qu'il dramatise les faits qu'existent des nouvelles technologies et qu'il faut les utiliser. Et donc, en fait, il contient une classification implicite qui s'impose aux acteurs, qui fait un usage correct et qui ne fait pas un usage correct, qui fait un usage qui ne fait pas un usage. Et ça, comme je disais au début de ce séminaire, a un effet, par exemple, sur la légitimité de l'enseignant en tant que porteur d'une autorité institutionnalisée, qui avant était garantie par la certification de l'État, tu es un enseignant, l'institution garantit que tu as les savoirs. Mais là, en fait, l'enseignant est déshabillé devant les étudiants, le roi est nu, et pourquoi, en fait, il est possible que les étudiants ont un savoir technique que l'enseignant n'a plus, ou n'a pas. Avant, en fait, tous les pouvoirs techniques étaient dans les mains du professeur qui décidait sur l'usage du tableau, ou des livres, ou des techniques, des technologies qu'on avait à disposition. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les enseignants peuvent avoir besoin de l'expertise des étudiants pour faire marcher un tableau. Et donc, en fait, il y a un changement de relation des pouvoirs dans la classe par rapport à ça. Et aussi des relations symboliques qui peuvent être intéressantes. Et en fait, il y a une discussion. Parce qu'il y a un article qui a été publié sur Sociology of Education par Paino et Renzulli. Renzulli, c'est la directrice de ce journal. Et qui ont écrit un article sur le capital digital. Non? Moi, je suis très critique par rapport à cet article parce qu'ils affirment que les étudiants peuvent utiliser. C'est capital digital, et donc que les capitales, ils affirment que le capital digital, c'est une dimension du capital culturel. Et que les étudiants qui deviennent des classes populaires, qui n'ont pas de capital culturel, peuvent utiliser les capitales digitales pour renégocier leur position dans l'école. Je ne suis pas d'accord. Parce que, alors d'abord, parce que je pense que le capital, qu'il n'est pas une dimension du capital culturel. C'est des ressources technologiques qui peuvent être partagées et qui, quand sont valorisées par l'enseignant, C'est pas dans un modèle bouddhisien, mais c'est un modèle interactionniste. C'est-à-dire, rien de la négociation dans la classe par laquelle, en fait, tu es un idiot, tu sais rien d'histoire, mais quand même tu sais utiliser un tableau, un peu de technologie. Donc, je vais valoriser cette expertise pour pouvoir essayer de te récupérer à la vie de la classe. Mais ça, c'est autre chose par rapport à l'idée d'un capital culturel qui fait la différence dans les processus de reproduction sociale, etc., dans l'école. Parce qu'il s'agit toujours d'étudiants qui sont dans des classes d'école marginales et des étudiants marginaux qui resteront marginaux, même si à certains moments, des enseignants valorisaient leurs compétences technologiques dans la vie de la classe. Alors, les pouvoirs des enseignants. Les enseignants peuvent utiliser ça pour renforcer les pouvoirs de contrôler l'espace et le temps de la leçon. Mais quand même, il y a un conflit dans l'école parce que c'est comme ma grand-mère, dans sa maison, il y avait la télévision, personne ne pouvait changer de. Je vous en prie. Non, en fait, les tableaux, ça devient un objet sacré. En plus, il est cher. Et donc, on ne sait pas si les étudiants peuvent accéder directement à ces instruments qui, en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, ouvrent à des mondes inconnus et même des mondes, des fois, qui sont interdits. Et donc, en fait, il faut faire gaffe. Et donc, dans chaque classe avait un coffre pour mettre l'ordinateur et les enseignants avaient des consignes pour se passer les clés du coffre-fort à une heure et l'autre de la journée. Et donc, ça créait en fait l'image d'un changement par lequel justement les vieux tableaux étaient propriété de tout le monde parce que les étudiants avaient un accès à ces moments ludiques au tableau. On utilisait. Et comment ça s'appelle pour les bosses pour se les balancer, par exemple, non? Bon, en Italie, on faisait ça habituellement. On mettait sous la chaise du professeur, comme ça, quand on s'élève, il était tout blanc. Non? C'était des façons de renverser la relation et donc de prendre les pouvoirs. Et donc, en fait, il y a un conflit. Un conflit qui, en fait, va aussi les tentatives, the weapon of the weak, les armes des pauvres, des faibles, non? Les armes des étudiants, essayer d'utiliser dans les négociations de la classe, donc dans la micro-politique de la classe, les tableaux pour reprendre les pouvoirs, pour essayer de se réapproprier des instruments de production du savoir au pédagogique, et aussi pour renégocier les temps et l'espace de la classe. Donc, à ce niveau-là, pour conclure, en fait, il y a un effet de champ. C'est-à-dire, l'école n'est pas une structure égale partout. En Italie, nous avons des filières professionnelles et des lycées académiques. Et l'expérience concrète dans l'école et dans la classe des différents publics porte à des usages très différents de la technologie par rapport au monde social dans lequel on est situé. Et donc, la structure de l'espace qui divise les étudiants par rapport à l'ethnicité, à la classe sociale et au genre, et fait que, en fait, l'usage des technologies de la pédagogie peut varier. Et ça peut avoir des conséquences encore sur les inégalités. Parce que justement, on parlait tout à l'heure des digital divide. Hein? Comment on dit en français, j'ai oublié.
Les dispositifs
La fracture.
à la future.
La fracture. Donc, la fracture numérique, effectivement, tout le monde a accès aujourd'hui au portable, à Internet, etc. Mais c'est l'usage qu'on peut faire de ça. qui fait la différence. Non? C'est qui, ça vaut pour toutes les technologies, hein? C'est-à-dire qu'on peut écouter France Musique ou n'importe quoi. D'accord? On peut aller au théâtre ou ailleurs, ou au bar. Donc en fait, tous les espaces publics, toutes les technologies nous offrent des possibilités qui sont très différenciées. Et ça aussi, en fait, fait que dans l'école, il me semble que la technologie a en effet des multiplicateurs de la des inégalités sociales. N'efface pas les différences sociales. Donc ce n'est pas la technologie en soi, mais c'est en fait le rapport entre capital culturel et la technologie et les usages, et aussi le fait que l'école est une école qui crée les différences, a déjà créé les différences, et donc ne peut que multiplier les différences en ayant une structure d'inégalité. Donc, si on n'arrive pas à, par exemple, en Italie, les choix de l'école se font à 14 ans, on fait plein de réformes. Ça, c'est la seule réforme que l'on ne fait pas. Parce que partager les étudiants, les classes sociales, les immigrés, des autres. Donc, cette réforme n'est jamais à l'ordre du jour du gouvernement. Mais pourtant, ça, c'est le problème. Que cette division crée, et en fait, un partage qui devient définitif. Voilà.
Merci.